Bonjour à tous, une marche pour ne pas oublier. Ce dimanche, la famille d'Erwan organise un rassemblement, un mois après sa disparition à Montcoutant-sur-Sèvre. Un hommage hier dans la cour de la gendarmerie de Bressuire pour saluer les enquêteurs qui ont démêlé l'affaire de l'incendie de juillet 2022 où 5 personnes avaient trouvé la mort. Interpellation hors du commun ce week-end pour un gendarme de Sévrien qui a croisé sur la route un mineur alcoolisé en karting. 300 jeunes choristes, mardi toute la journée à Bocapol, venus de l'ensemble de l'ancienne région Poitou-Charentes. Ces derniers participaient aux rencontres académiques musicales. Le baltrade du printemps prend de l'ampleur en Toircet. Ce sera samedi soir à la balastière de Saint-Martin-de-Sanzay. Et puis du basket, Cholet Basket s'est imposé hier soir en Champions League. Une marche pour ne pas oublier. Erwan, 18 ans, a été vu pour la dernière fois sur le parking de la discothèque La Morinière à Montcoutant-sur-Sèvre dans la nuit du 10 au 11 février dernier. Le vaste dispositif de recherche mis en œuvre n'a pas permis de le retrouver. L'enquête est maintenant pilotée par une juge d'instruction de Niort. Les proches d'Erwan souhaitent organiser un rassemblement ce dimanche 10 mars à partir de 11h à la salle des fêtes de Sauret, commune dont le jeune homme est originaire. Une cérémonie très rare hier dans la cour de la gendarmerie de Bressuire. Malgré le temps qui a passé, Bressuire se souviendra de cette nuit du 8 juillet 2022 quand un peu avant 5h du matin un incendie de grande ampleur s'était déclaré dans un appartement situé boulevard Joffre faisant 5 morts issus de la communauté comorienne, une femme de 31 ans et sa fille de 5 ans, deux hommes de 27 et 35 ans et un adolescent de 17 ans. L'affaire sur fond de trafic de stupéfiants avait pris une tournure d'envergure nationale avec notamment le déplacement sur place de l'ambassadeur des Comores en soutien à une communauté durement touchée. Les principaux gendarmes de Sévrien en charge du dossier qui ont permis de démêler cette affaire ont été salués hier matin. À l'occasion aussi de rappeler la collaboration des différents services jusqu'au niveau national et du soutien, une fois de plus, sans faille, des sapeurs-pompiers. Écoutez le colonel Ludovic Vestieux, commandant du groupement de gendarmerie des Deux-Sèvres.
Nous avons mobilisé des moyens nationaux pour l'identification des corps, pour la modélisation également de la scène de crime. Des moyens également techniques pour assurer l'évolution des enquêteurs dans un milieu qui n'était pas sécurisé, donc en milieu périlleux, parce que la maison risquait de s'effondrer sur les enquêteurs en même temps que l'on procédait au relevage des corps. Les enquêteurs ont utilisé des renseignements qu'ils ont recueillis dans un temps proche du début du sinistre pour ensuite remonter et identifier les deux personnes qui sont actuellement suspectées d'être les auteurs de cet incendie criminel.
Diriez-vous que le fait que cette affaire ait été résolue assez rapidement, ça a apaisé la situation?
Oui, tout à fait. Le risque, bien sûr, c'était que derrière, on ait des tensions communautaires, que des rumeurs circulent quant à l'origine de l'incendie et quant aux motivations même des auteurs de cet incendie.
Moins d'un an après les faits, un homme de 43 ans et une femme de 38 ans qui avaient été interpellés ont reconnu être à l'origine de cet incendie mortel. Un devoir de vérité que la justice devait aux victimes et à leurs familles. Pour Julien Wattebled, le procureur de la République du tribunal de Niort.
C'est quelque chose qu'on devait évidemment à ces victimes, qu'on devait aux familles, qu'on devait à tous les habitants de Bressuire d'ailleurs, une vérité, savoir ce qui s'était passé. On a interpellé deux personnes qui ont été mises en examen, placées en détention provisoire, après avoir pu établir que cet incendie était un incendie volontaire et criminel.
Sait-on quand est-ce qu'aura lieu le procès?
C'est quelque chose qui est difficile à dire. Alors, c'est un procès qui est suivi, en tous les cas, une information judiciaire qui est suivie actuellement à Poitiers, au pôle criminel de Poitiers. Ce n'est plus Niort qui a l'enquête puisque les affaires criminelles sont suivies à Poitiers. Donc l'instruction est encore en cours. Je pense qu'on peut raisonnablement penser à un procès en 2025 ou 2026.
Peut-on envisager un procès dissensible?
Oui, c'est un procès où on a beaucoup de victimes, beaucoup de proches aussi qui seront attendus, un fort écho médiatique. Donc c'est quelque chose qui pourrait être labellisé procès sensible, oui.
Est-ce que donc dire que ça peut se traduire de quelle manière?
Alors les procès sensibles au ministère de la Justice sont les procès justement qui, soit par leur écho médiatique, soit par la forte mobilisation attendue en termes de public, de participants, d'experts, d'enquêteurs, de témoins, nécessitent des moyens particuliers, notamment la mise à disposition de salles d'une capacité plus importante, avec des salles également pour les médias, de manière à pouvoir relayer ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est des demandes qui sont faites auprès du ministère. ministère qui apprécie ensuite s'il y a lieu ou pas d'apporter ce label.
Le procès de cet incendie criminel à Bressuire en juillet 2022 devrait donc se tenir en 2025, voire 2026. Si les deux mises en cause sont toujours à ce stade présumés innocents, ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Une interpellation hors du commun le week-end dernier pour un gendarme de Sévrien vers 4h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche, alors que le militaire rentrait chez lui après avoir effectué plusieurs contrôles routiers. Il a alors croisé un orni sur la route Montcoutan-Largesse. Un orni comprenait objet roulant non identifié qui circulait sans aucun éclairage. Le militaire a alors fait demi-tour pour découvrir un jeune mineur en karting sous l'emprise de l'alcool. Écoutez le témoignage du commandant Grégory Raboisson, chef de la compagnie de gendarmerie de Parthenay. Énorme surprise, comme il l'a confié à Patrice Bemenangy, lui qui pensait pourtant être familier au délit routier.
Surprise effectivement de croiser ce type de véhicule, d'autant plus qu'il n'avait pas de lumière, mis à part une lampe frontale sur le casque. Alors dans un premier temps, j'ai cru que je croisais un vélo, et au moment où j'ai le véhicule qui arrive au niveau de ma fenêtre, je me rends compte effectivement que c'est un karting. Et donc j'ai cherché la possibilité de faire demi-tour pour pouvoir aller le contrôler, tout en espérant qu'il ne croise aucun autre véhicule. Parce que le fait de circuler avec ce type de véhicule qui est très bas sur le sol et sans lumière, il y avait effectivement un risque très important d'accident. En plus, il y avait un petit peu de brouillard ce soir-là. C'est extrêmement dangereux. Et là, il y avait un risque très grave pour lui. Et je vais aller même plus loin. Quand j'ai fait demi-tour et que je suis revenu vers lui, je l'ai vu vraiment au dernier moment quand je l'ai rattrapé, étant donné qu'il n'avait absolument aucune lumière à l'arrière du véhicule. On pense avoir tout vu. On tombe souvent sur des cas particuliers qui, bien entendu, après coup, peuvent amener à sourire. Sur le moment, beaucoup moins, je vous assure. Sur le moment, on pense surtout à régler la situation pour éviter un drame. Et ça a été le cas ce soir-là.
Le mineur roulait donc à bord de son kart sur la route de Montcoutan-Largesse en pleine nuit et sans aucun éclairage. Il a été contrôlé avec 0,84 g d'alcool par litre de sang. Ses parents ont immédiatement été contactés pour récupérer le jeune mineur. Écoutez la réaction de Jérôme Ponce, responsable de la piste de karting de Moutier-sous-Chantemerle, à une encablure de Montcoutan.
On réagit, on est d'abord stupéfait, étonné, parce que il y a des circuits pour faire ça, mais c'est sûrement pas, on fait pas de cartes sur la voie publique, c'est pas du tout adapté, c'est super dangereux au niveau de la taille déjà de l'engin par rapport à un véhicule de tourisme ou un camion, on peut se faire écraser, rouler dessus, donc c'est vraiment quelque chose à ne jamais reproduire. En tout cas, il faut vraiment expliquer aux gens, et surtout aux jeunes, que c'est pas du tout quelque chose qui doit se faire, et c'est encore plus dangereux qu'un vélo sur la route, qu'une trottinette, etc. Parce que des fois, il y a des comportements qu'on voit, malheureusement, qui sont un petit peu dangereux, mais un kart sur une route, ça ne peut pas lister.
Jérôme Ponce, le responsable de la piste de karting de Moutier-sous-Chantemerle. Le kart a bien entendu été immobilisé. Quelques 300 jeunes choristes mardi toute la journée à Bocapol, venus de l'ensemble de l'ancienne région Poitou-Charentes. Ces derniers, de la 6e à la terminale, participaient aux rencontres académiques musicales. Aboutissement de tout un travail qui s'est traduit par un concert devant 380 élèves des écoles de Bressuire et des environs, ainsi qu'une vingtaine d'aînés du secteur avant un concert tout public en soirée, dans des styles musicaux très variés en fonction des enseignants de chaque groupe. Nathalie Rullier est enseignante au collège de l'Orangerie de la Motte Saint-Héret, membre de la FAX, la Fédération Académique des Chorales Scolaires.
Il y a eu un travail en amont dans les lycées, dans les collèges, et là aujourd'hui l'idée c'était de mettre tout ce petit monde ensemble, puisqu'il y a des morceaux communs à la fin, il y a deux morceaux communs, et en fait l'idée c'est aussi que chacun voit les pratiques de l'autre, parce qu'on a des pratiques très diverses, on a à la fois un orchestre. On a également des petits avec une classe chantante, donc des élèves d'une classe de 5e, et on a aussi des chorales et des chœurs, un chœur de lycée, donc des élèves beaucoup plus avancés. Alors là, je tire une grande satisfaction parce que c'est beaucoup de travail, mais cet après-midi, on avait 400 scolaires qui sont venus assister à la répétition. Et on avait aussi des adultes, alors qu'ils sont quand même autonomes, mais qui sont dans un centre. Et on a eu un très beau moment parce que une dame, je pense assez âgée, s'est remémorée quand elle faisait de la chorale et elle nous a chanté le tourdion qui avait été interprété montée sur scène par des jeunes lycéens. Et ça a terminé dans la salle, tout le monde chantait La vieille dame. Et voilà. En ce moment, on entend beaucoup de choses sur l'art au collège. Et nous, les professeurs d'éducation musicale, on a peur que notre discipline soit supprimée. Et quand on voit le travail qui est mené ici, on se dit que ça serait un peu dommage.
Nathalie Rullier, enseignante au collège de l'Orangerie de la Motte-Saint-Héret, membre de la Fédération académique des chorales scolaires, présente ce mardi à Bocapol à l'occasion des rencontres académiques musicales. Le Baltrade du printemps prend de l'ampleur en Toircet. Un joli rendez-vous promis en effet pour cette soirée de samedi 9 mars à la Balastière de Saint-Martin-de-Sanzay grâce au bal de musique traditionnelle emmené par les musiciens de Barguenat, ceux de l'ensemble nord de Sévrien Brassaille et les élèves de l'école d'Argenton-l'Église guidés par l'accordéon diatonique de Benoît Gerbigny. Très inspiré, ce prof coanime un atelier danse mensuel au conservatoire Tindo à Thouars. Il détaille l'ambiance attendue pour ce 9 mars au micro-colline de Dominique Hérault.
On a pensé organiser un bal auquel on a ajouté un travail avec l'ensemble des pratiques collectives Nord de Sèvres, Parthenay, Bressuire, Thouars, avec une rencontre avec un groupe professionnel qui vient des monts du Lyonnais, qui s'appelle Barguenat. Quatre jeunes musiciens talentueux qui vont travailler une journée entière avec l'ensemble Brassaille. On a fait de ce rendez-vous du 9 mars un point central. Il y a des ateliers de danse qui sont mis en place sur le Toircet par des associations comme Tradidance ou Cerflo Danse. Et du coup, il y a une trentaine de personnes qui viennent une fois par mois danser. Et donc, on est vraiment dans l'essence même de ces musiques traditionnelles, en fait. Et ça regroupe toutes les générations. Et ça, c'est très bien. Alors, le 9 mars, ça va être vraiment une soirée éclectique parce que on va utiliser les musiques traditionnelles poitevines dans leur acception large, c'est-à-dire à la fois pour les traditions orales enfantines jusqu'aux danses de veillée, voilà, qui se faisaient. Et le groupe Barguenat, lui, va ramener des répertoires de la Bretagne en passant par le Languedoc, le Roussillon, la Gascogne. Vraiment, ils jouent des morceaux de partout, en fait. C'est leur credo.
Plus de 70 musiciens seront au rendez-vous de ce samedi 9 mars à 20h30, d'où l'intérêt du site de la Balastière de Saint-Martin de Sanzay. L'entrée 4 euros, une légère participation pour un vrai moment de partage à l'ancienne. Réservation possible sur la billetterie en ligne de la Maison du Toircet ou par téléphone au 05 49 66 17 65. Reportage réalisé dans le Toircet par Dominique Hérault. Beau succès pour le spectacle Les Faux Plafonds, proposé par le Conservatoire de Musique. Ce sera aussi samedi à 20h30 à la salle La Griotte de Cerizet. Ce spectacle affiche complet à la croisée des chemins de la lutherie, des chiffonniers et du burlesque. Ce véritable orchestre de brocante constitué de 8 artistes va donc embarquer un public nombreux avec des airs connus et actuels en jouant des instruments créés de leurs mains avec des objets du quotidien. Dommage pour celles et ceux qui ont hésité. Le rendez-vous est donc ce samedi soir à 20h30 à la Griotte à Cerizet. On passe au sport et à la Champions League de basket, battue de 13 points au match aller. Les joueurs de Cholet Basket n'avaient plus le choix. S'ils voulaient garder leur destin en main, il leur fallait battre Tofas Bursa hier soir à la Meyret. C'est chose faite, mais pas de beaucoup avec une victoire 77 à 74. Les hommes de Laurent Villa ne sont pas éliminés.
La priorité, comme je dis, c'était vraiment de gagner. Mais c'est vrai qu'on attendait aussi, vu la physionomie du match, de gagner de plus 13. On a bien vu que dans le dernier carton, ils ont fait un dernier run vraiment très offensif en prenant des risques. Nous, on a relâché aussi, on a perdu quelques ballons, on a fait aussi des petites erreurs sur le repli défensif qui ont donné ces tirs faciles aussi. Et finalement, ça se joue sur une dernière possession, on va dire, pour sécuriser la victoire. Mais on est déjà très content d'avoir gagné ce match parce que c'est une très très bonne équipe. Ils nous avaient donné une leçon de basket chez eux. Et ce soir, on a réussi à les contenir. Ça veut dire aussi qu'on a bien progressé et c'est déjà une satisfaction.
Le coach Choletais, Laurent Villa, après cette victoire hier soir contre Tofas Bursa en Champions League. Et puis des aides du département pour les associations sportives. Le conseil départemental des Deux-Sèvres a voté 43 340 euros en faveur des structures organisant des manifestations sportives présentant un intérêt départemental. Cette enveloppe sera versée notamment au tennis club de Bressuire pour l'organisation du top 10-12, l'échiquier Niortais pour l'Open International de Niort et Poitou-Charentes Animation pour le Tour Cycliste Poitou-Charentes.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Les nuages prennent peu à peu le dessus sur les Deux-Sèvres avec une large domination des nuages cet après-midi, sauf sur le Marais Poitevin ou le Niortais où le soleil devrait se maintenir, bien que quelque peu voilé. 12 degrés pour les températures maximales ce jeudi, demain vendredi et le week-end s'annonce gris et pluvieux. Voilà pour les météos, tout de suite c'est le retour de la musique sur Colline.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.